buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Singing, God save Ireland, cry the heroes. God save Ireland, cry we all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, what matter when for Ireland here we fall.
Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette émission par une prière. Celle qui, aujourd'hui encore en Irlande, ouvre chaque session parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une tradition qui a plus d'un siècle, mais dont certains parlementaires réclament aujourd'hui l'abolition, suscitant de vifs débats, Julien Lagache.
D'abord en gaélique, la langue irlandaise, puis en anglais, la prière invoque l'assistance de Dieu dans les travaux du Parlement. Elle demande « Puisses-tu nous inspirer au commencement de nos paroles et de nos actes, afin qu'ils se concluent par toi, à travers le Christ notre Seigneur. Amen. » Mais ce rituel est de plus en plus attaqué. Sa suppression a été réclamée en 2011, 2014 et plusieurs fois à quelques mois d'intervalle ces trois dernières années. À chaque fois, ses détracteurs dénoncent un anachronisme, une pratique incompatible avec une république, tandis que les défenseurs de la prière disent protéger une tradition presque aussi ancienne que l'indépendance du pays. Pour les opposants, il existe pourtant différentes alternatives, l'abandon pur et simple de la pratique, son remplacement par un temps de réflexion laïque ou encore une meilleure expression des autres culte qui reflète la société où le catholicisme reste majoritaire mais en perte de vitesse alors qu'un Irlandais sur cinq se déclare athée. Finalement, début mai, l'Assemblée a largement voté pour le maintien de la prière, mais désormais elle est suivie de 30 secondes de réflexion laïque et pendant cette minute d'introduction, les députés doivent rester debout sous peine d'amende, une modification du protocole insuffisante aux yeux de certains élus qui sont restés assis pendant la prière sans pour autant être sanctionnés, ce qui montre l'inconfort politique de la situation dans un pays en pleine mutation, mais toujours lié à un passé très religieux. Les scandales des années 2000 qui ont entaché l'Église catholique ont sans doute ouvert la voie à ces attaques répétées contre un clergé toujours présent à l'école ou dans les hôpitaux, et contre une législation imprégnée de cet héritage comme l'interdiction de l'avortement ou la loi sur les offenses religieuses votée en 2009, ce qui fait de l'Irlande le seul pays développé à pénaliser le blasphème au XXIe siècle.
J'étais un inconnu dans les grands magasins. Je me suis reconnu dans les grands magasins.
Made in Ukraine. Dans le centre de Kiev s'est développée ces derniers mois une chaîne qui vend exclusivement des produits fabriqués en Ukraine. Alors que le pays a perdu une à une ses industries et que l'économie reste dépendante des importations, les Ukrainiens adorent redécouvrir que leur pays peut fabriquer des produits de qualité. Le reportage shopping de Sébastien Gobert.
Passé la porte de Vsisfoï, nous voilà bercés par une musique d'ambiance typique des magasins de vêtements. À première vue, rien d'original. Et pourtant, Vsisfoï, c'est un magasin révolutionnaire.
C'est un nouveau concept. Nous avons ouvert un grand magasin dans le centre de la ville avec seulement des marques ukrainiennes.
Volodymyr Korneliuk est le directeur du magasin, situé bien en vue sur la prestigieuse avenue Kreschatik.
Nous avons plus de 200 marques ici. Des vêtements, des chaussures, des accessoires, de la décoration intérieure, des jouets pour les enfants.
Vsisfoï en ukrainien, cela se traduit par « tout appartient, tout est à toi ». Inauguré en septembre 2016, il s'étale sur plusieurs étages. L'équipe ambitionne de devenir une vitrine de la mode en Europe de l'Est et de soutenir les producteurs locaux. Plusieurs designers ukrainiens se sont fait remarquer sur les podiums internationaux ces dernières années et on observe un vent de créativité en Ukraine. Même les culottes et les caleçons ont leur rôle à jouer dans le phénomène du « Made in Ukraine ». Nikita Bondarenko et son entreprise Skoff fournissent des sous-vêtements à Vsisfoï.
C'est en décembre 2015 que nous avons commencé à coopérer avec Vsisfoï. Nous avons pris part à des festivals et des foires. Quand le magasin s'est ouvert, on nous a proposé d'y exposer nos produits. C'est une grande chance pour nous et une reconnaissance de notre travail.
Dès sa création en 2015, Vsisfoï a organisé des événements ponctuels pour rassembler et présenter des producteurs et artisans ukrainiens. Le succès a été immédiat et a permis l'ouverture du magasin. Les bouleversements historiques qu'a traversé l'Ukraine depuis 2014 ont créé un climat favorable. Volodymyr Korneliuk.
Au début, c'était clairement du patriotisme lié à la révolution et à la guerre, un mouvement de solidarité entre Ukrainiens. Petit à petit, ça s'est transformé en phénomène de mode et les gens viennent chez nous.
Ironie de l'architecture, ce magasin né d'une vague de patriotisme ukrainien est implanté dans un bâtiment typiquement soviétique de l'époque stalinienne. Mais c'est l'emplacement qui compte et Psisfoï ne désemplit pas de clients. Ce jour-là, Vita se cherche une nouvelle jupe.
C'est vraiment un endroit intéressant. J'aime bien les offres de produits ici, j'aime bien la structure du bâtiment. Et pour moi, c'est très important que le magasin présente une large diversité de designers ukrainiens. En étant ici, je soutiens les producteurs locaux, donc je viens souvent ici.
Au-delà de la démarche patriotique, Psisfoï développe surtout une image de qualité et de gestion à l'occidentale, transparente et efficace. Vladimir Korneliuk.
C'est sûr que les Ukrainiens aiment l'idée de soutenir des artisans locaux, mais c'est aussi une question de qualité, puisque la plupart des vêtements vendus ici sont faits à la main. Et puis ils sont moins chers que des vêtements importés, qui eux sont frappés de taxes d'importation. Donc venir ici, ce n'est pas que du patriotisme, mais c'est un choix très pragmatique.
Sur les étagères de Psisfoï, on trouve tous les styles. Le magasin se développe comme un espace pratique pour faire du shopping et trouver des vêtements pour la vie quotidienne ou des occasions spéciales. L'idée étant de normaliser les marques ukrainiennes en dépassant le stéréotype d'un pays d'importation sans aucune histoire de production locale. Volodymyr Korneliuk.
Ce sont des marques de toute l'Ukraine, pas seulement de Kiev. Beaucoup viennent de Kharkiv, de Dnipro, d'Odessa. Ce sont des marques reconnues. L'une d'elles a plus de 100 ans. Elle a survécu à deux guerres et au régime communiste.
Et ça marche. Oleksii déambule dans les allées du magasin. Pour lui, il n'y a rien de bizarre à s'habiller avec des marques ukrainiennes plutôt que les marques occidentales de renom.
Je suis à une étape de ma vie où je cherche un nouveau pantalon. Juste à côté d'ici, il y a Zara. En soi, je peux aller le chercher là-bas, ça n'a pas d'importance. Mais je suis d'abord venu ici parce que je connais un des artisans qui en vend et le magasin a une très bonne réputation.
La direction de Psisfoï prévoit déjà d'ouvrir de nouveaux magasins dans d'autres villes du pays. Au-delà de l'aspect commercial, le message est clair. Il est temps pour les Ukrainiens de connaître leur pays, de s'approprier leur patrimoine et d'être fiers de leur production.
Les jeunes gens
est dangereux pour la santé.
La chronique.
Et si vous tenez une cigarette à la main, c'est peut-être le bon jour pour l'écraser en cette journée mondiale sans tabac. Le tabac, un peu moins prisé désormais par les jeunes Européens. Nous allons en parler avec Eve Minot. Bonjour Eve.
Bonjour Laurent.
Alors, si les jeunes fument moins aujourd'hui qu'hier, les cigarettes sont encore très présentes dans la vie des étudiants. C'est un peu l'histoire du cendrier à moitié vide ou à moitié plein, Eve.
Alors avant toute chose, je vous propose de commencer par les bonnes nouvelles. Vous l'avez dit, globalement, ces 10 dernières années, le nombre de fumeurs a diminué en Europe. Interdiction de la cigarette dans les lieux publics, les restaurants, les cafés, renforcement des politiques dissuasives sur les paquets de cigarettes. Bruxelles a largement contribué à diffuser et multiplier les politiques anti-tabac dans les États membres depuis les années 2000. Résultat, cette année encore, selon le baromètre de la santé publié par l'agence sanitaire, le BEH, le tabagisme a diminué partout. Par exemple, en France, chez deux tranches d'âge en particulier, les hommes entre 25 et 34 ans et les jeunes femmes de moins de 25 ans.
Alors, en France, est-ce que cette baisse est vraiment significative ?
Oui, plutôt, puisque le pourcentage de fumeurs quotidiens chez les jeunes hommes de moins de 34 ans donc passe à un peu plus de 41% contre 48% auparavant, et chez les jeunes femmes de 30 à 25. On peut donc espérer que cette tendance soit le symptôme, pourquoi pas, d'une prise de conscience générationnelle. A contrario, la part de fumeurs réguliers a augmenté chez les plus de 55 ans, toujours en France.
Et puis, il n'y a pas de quoi être très fier, on fume beaucoup plus en France que chez nos voisins européens.
Oui, alors là, c'est très clair, la France reste l'un des pays européens les plus accros à la cigarette. En Allemagne, en Espagne ou en Belgique ou aux Pays-Bas, la part des fumeurs est plus près du quart de la population, alors qu'elle est chez nous d'un tiers. Quand en Italie ou en Grande-Bretagne, cela tourne plutôt autour du cinquième de la population, donc 20%. Tandis que dans les pays scandinaves, ce sont les bons élèves de l'Europe en la matière, les fumeurs représentent environ 15% de la population totale seulement. Des chiffres en baisse continue depuis 20 ans.
Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent cette tabagie française, Eve Minot ?
Alors franchement, l'exercice a l'air plutôt délicat. En tout cas, les études n'avancent pas d'explications claires. Évidemment, le poids des politiques publiques joue un rôle certain. En France, elles ont mis un peu plus de temps qu'ailleurs à s'imposer. Il faut peut-être aller encore plus loin. C'est en tout cas ce que n'hésitent pas à faire certains de nos voisins européens, où le prix du tabac, par exemple, atteint des sommets, 10 euros pour un paquet en Angleterre. Et cela dissuade les jeunes de commencer en y laissant toutes leurs économies.
Oui, mais malgré tout, Eve, le prix des cigarettes ne fait pas tout, non ?
Non, et c'est un peu un paradoxe, car en France, par exemple, où le paquet n'a jamais été aussi cher, on remarque qu'au cours de cette période, le tabagisme quotidien a augmenté parmi les personnes aux revenus de la tranche la plus basse, tandis qu'il a baissé chez les personnes de la tranche des revenus les plus hauts.
Mmh. Et puis un autre enseignement de l'agence de santé, la cigarette électronique qui a vu ses ventes exploser ces dernières années, eh bien cette e-cigarette a de moins en moins la cote.
Oui, en France, son utilisation ne concernerait que 2,5% des utilisateurs quotidiens, donc c'est pas grand-chose. La vapoteuse est peut-être une mode qui est en train de partir en fumée, Laurent. Par contre, certains sondages d'opinion en font un outil efficace pour arrêter de fumer, une espèce de transition. C'est déjà ça.
Et puis on termine avec la Finlande, en guerre, on va dire, contre le tabac et qui veut devenir le pays européen exemplaire en la matière.
Objectif, zéro fumeur en 2030. Rien que ça, le gouvernement a même réduit le compte à rebours puisqu'initialement cet objectif était prévu pour 2040. Et pourtant, les Finlandais sont déjà plutôt bons élèves en la matière, comme je vous le disais tout à l'heure, 15% de fumeurs environ parmi la population. Mais c'est encore trop. Interdiction de fumer, y compris sur son propre balcon par exemple ou dans la cour de l'immeuble, ainsi que augmentation des prix pour le paquet de cigarettes. Ça a plutôt l'air de marcher. Il paraît que là-bas, fumer chez les 14-20 ans est devenu totalement ringard.
Et ben voilà. Merci Eve Minot. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Laurent.
C'est désormais un pays cul-de-sac pour tous les migrants qui cherchent refuge en Europe de l'Ouest. En Serbie, les conditions de vie de ces réfugiés sont terribles. À Belgrade, un 18e centre d'accueil vient d'ouvrir ses portes, mais les migrants se méfient et préfèrent trouver refuge dans des entrepôts non loin de la gare. Ils sont 1300 environ à y survivre dans des conditions d'hygiène déplorables. Alice de Baptiste de la RTBF y a retrouvé Brigitte Tonon, chef de mission pour Médecins du Monde.
Là, on est vraiment dans les gros entrepôts où effectivement les personnes dorment et vivent. Et entre les deux entrepôts, c'est là où tu as les distributions alimentaires qui se font non trois fois par jour. Salam alaikum.
À l'intérieur des bâtiments, quelques tentes fournies par des ONG ont été installées.
Des tentes, un petit peu d'espace improvisé à l'aide de couvertures, de morceaux de bois, pour essayer de reconstituer un minimum d'intimité dans ce gros entrepôt qui a beaucoup noirci de par la fumée des feux qui ont été faits pour pouvoir se réchauffer en hiver.
Nushatran est pakistanais, il a 16 ans, il vient juste d'arriver.
Je suis arrivé ici il y a 6 jours. Je dors sur le sol, on n'a rien pour dormir. Pas de couverture, pas de drap. Nous ne voulons pas rester ici. Qui voudrait rester ici dans ces entrepôts ?
Les conditions de vie sont très dures. Il n'y a pas d'électricité. Les vents s'engouffrent dans les bâtiments. Les déchets jonchent le sol. Un tiers des personnes qui vivent ici ont des poux de corps. Alors quand ils doivent se soigner, prendre une douche, se réchauffer, ils se rendent tous au numéro 15 de la rue Gravilia Principa. Le centre Mixaliste y a vu le jour en 2015. Ici, pas besoin de s'enregistrer, on entre et on sort comme on l'entend. 13 ONG travaillent dans ces locaux, dont celle de Brigitte Tony.
Vous avez vraiment ce qu'ils appellent le Young Corner, qui est un endroit où justement les adolescents peuvent se rencontrer et avoir accès à différentes activités en fonction de ce que les gens souhaitent. Si ça va être plutôt du dessin, de l'information, on voit un peu de traduction également.
Alors je vois aussi beaucoup de chargeurs, de prises pour charger les GSM. Ça, c'est une des grosses demandes, je suppose.
Ici, c'est un bon moyen en fait pour eux de pouvoir recharger leur téléphone, avoir accès également à la Wi-Fi. L'accès à l'information, le maintien du contact avec la famille et les amis, je suppose.
Ahmed était professeur de sciences au Pakistan. Il vient régulièrement dans ce centre pour apprendre l'anglais. Pour lui, hors de question de se rendre dans les camps ouverts par le gouvernement.
Je voudrais aller en Allemagne. Nous restons dans les entrepôts. Vous avez vu, les conditions de vie ne sont pas optimales, mais dans les camps, on doit s'enregistrer.
Et une fois enregistré dans l'un des 18 centres du pays, les migrants doivent attendre d'obtenir une autorisation officielle pour passer la frontière hongroise. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Les migrants qui vivent dans les entrepôts refusent d'attendre.
La plupart savent que la durée d'attente est très longue, en fait, à partir du moment où vous faites la demande. Donc, le passage aux frontières au niveau de la Hongrie, avec uniquement 10 personnes par jour et 50 personnes par semaine, quand vous comptez qu'il y a déjà plus de 6000 personnes dans les centres, votre temps d'attente est vraiment très très long.
S'ajoute à ce temps d'attente le facteur de vulnérabilité.
La priorité donnée aux familles et aux enfants, et elle est également donnée en fonction de la zone d'origine.
Dans les entrepôts désaffectés, il n'y a que des hommes. Ils viennent pour la plupart d'Afghanistan ou du Pakistan. Ivan Gerginov est assistant du commissaire serbe en charge des migrants et des réfugiés. Il reconnaît qu'ils devront se munir de beaucoup de patience.
C'est vrai que si ces hommes célibataires sont mis sur la liste, les statistiques nous le disent, ils ne seront transférés quelque part qu'au bout de 8 ans et demi. Mais cela ne devrait pas les empêcher de rentrer dans un camp.
Au-delà d'une attente interminable, les migrants craignent également d'être renvoyés chez eux.
Ces personnes ont peur de donner leurs données personnelles à n'importe quelle autorité. Les migrants disent que s'ils parviennent à rentrer en Europe, ils seront par la suite expulsés. Et nous ne sommes pas vus, par la majorité des migrants, comme leur destination finale.
La Serbie n'est en effet qu'une étape pour la plupart des hommes rassemblés ici. Ibrahim a 21 ans, il vient d'Afghanistan, il a fui Kaboul il y a presque un an.
Mon grand frère est mort dans une explosion. Alors mon père a eu très peur et il m'a envoyé ici. Mon oncle est déjà en France, alors je voudrais le rejoindre pour continuer mes études, pour avoir une vie meilleure.
Et une fois arrivé sur le sol serbe, il n'a pas perdu de temps. En 5 mois, Ibrahim a déjà tenté 12 fois de passer les frontières hongroises, croates et roumaines. Tout le monde ici tente sa chance et les passeurs l'ont bien compris. On en trouve beaucoup dans la capitale et notamment dans un parc tout près du centre Mixelice.
En Croatie, le célèbre squat Medica de Zagreb vit-il ses derniers mois? Le maire Milan Bandic envisage d'installer un palais des congrès flambant neuf dans les locaux de ce haut lieu de la culture alternative, Simon Rico.
L'ordre était tombé il y a quelques semaines. Les artistes et habitants de Medica avaient jusqu'au 16 mai pour quitter les lieux. Mais la date fatidique est finalement passée et ils sont restés, prêts à se battre pour conserver leur squat. Les menaces de fermeture de cet espace, convoité pour son emplacement en plein cœur de Zagreb, ne datent pas d'hier. Cela fait plus de 3 mois que les représentants de Medica essayent en vain d'obtenir un rendez-vous avec la mairie. Depuis plus d'une décennie, l'ancienne usine pharmaceutique est devenue l'un des principaux centres culturels alternatifs de la capitale croate. Le public se retrouve dans les immenses locaux industriels tagués pour assister à des concerts de punk, disserter sur l'accueil des réfugiés ou encore assister à des projections de cinéma expérimental. Aujourd'hui, les Zagrébois se mobilisent pour défendre ce lieu unique et dénoncer les attaques répétées du pouvoir contre le milieu underground de Croatie, surtout depuis que la droite dure est revenue aux affaires à l'hiver 2016. Cette fois, c'est l'indéboulonnable maire, Milan Bandic, qui a lancé les hostilités. La mairie propriétaire des locaux de Medica voudrait y installer un palais des congrès ou un hôtel. Du côté de la municipalité, on se refuse à tout commentaire, jurant que la fermeture administrative a été demandée pour procéder à des travaux de rénovation, notamment pour mettre le bâtiment aux normes anti-incendie. Et si jamais Medica devait fermer, la mairie promet qu'elle allouera un nouvel espace adéquat à ses occupants. Des assurances qui sont loin d'avoir mis fin à la mobilisation pour préserver ce squat historique.
Françoise Grelot a réalisé et mis en ondes cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40, temps universel.